RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Nous recevons ensemble ce soir Benoît Hamon, membre fondateur du mouvement Génération S et ancien candidat socialiste à la présidentielle de 2017. Bonsoir. Et merci d'être avec nous.
Bonsoir Frédéric Rivière.
Alors, la France va rapatrier 130 djihadistes français prisonniers en Syrie dans les camps détenus par les Kurdes. Ils seront jugés ici. Alors, depuis que les Américains se sont retirés de Syrie, les autorités françaises sont inquiètes. Elles craignent que l'on perde leurs traces. La classe politique est divisée aujourd'hui sur le sujet. Quel traitement, d'après vous, doit-on leur réserver ?
Je pense qu'ils doivent être jugés en France. Je pense que le droit réclame qu'ils soient jugés en France pour les faits commis là-bas, pour ceux qu'ils auraient pu auxquels ils auraient pu être associés en France, notamment dans les attentats terroristes, et qu'un grand état de droit comme le nôtre doit juger ces ressortissants qui se sont livrés à des actes de terrorisme, même en dehors de ses frontières. Toute autre position est parfaitement démagogique et irresponsable. Et en tout cas, moi, j'observe que c'est comme d'habitude Marine Le Pen qui, la première, y est allée de son petit couplet sur ce registre-là. Eh bien, écoutez, la France, c'est une grande nation qui, parfois, voit un certain nombre de ses ressortissants commettre l'irréparable. Eh bien, nous devons, vis-à-vis de cela, en tout cas, les juger ici. Et je pense que je soutiens, en tout cas, la proposition du gouvernement de rapatrier ces djihadistes pour qu'ils soient jugés en France, arrêtés et jugés.
Est-ce que ça ne risque pas de poser des problèmes ? Parce que les faits qui leur sont reprochés, les éventuels crimes qu'ils ont commis, c'est là-bas, en Syrie. Or, la justice ne disposera pas, la justice française ne disposera pas forcément des éléments d'instruction, des éléments de preuve. Elle devra donc les juger sur des dossiers qui seront probablement assez incomplets.
Sans doute incomplets. La réalité, c'est qu'il existe une menace qu'une partie d'entre eux disparaissent purement et simplement.
Donc, il y a aussi quelque chose là-dedans comme de l'ordre de la précaution.
De l'ordre de la précaution. Et il me semble aujourd'hui que, dans ce domaine-là, il vaut mieux prévenir, qu'il vaut mieux que ces Français soient ici arrêtés et jugés. Ils auront la possibilité de se défendre ici, certainement bien mieux qu'ils n'auraient pu le faire là-bas. Donc les conditions d'un jugement équitable seront réunies, et même si certains dossiers seront incomplets, mais il me semble que voilà, c'est dans une période comme celle que nous vivons, troublée, où des régimes, en tout cas des personnalités venant de l'extrême droite prennent le pouvoir partout, il faut poser des principes. Et ces principes-là sont qu'un grand état de droit comme le nôtre doit juger ses ressortissants, même quand ils ont commis des crimes à l'étranger, et en l'occurrence des crimes terroristes.
Alors, on vous entend, vous soutenez donc le gouvernement sur le rapatriement des djihadistes. En revanche, est-ce que vous le soutenez, le gouvernement, sur la loi anti-casseurs qui se discute actuellement à l'Assemblée nationale ? Elle divise la majorité. Certains l'estiment liberticide. Les points forts, je vous en cite deux, c'est que les préfets pourront prononcer des interdictions de manifester à l'encontre de ceux qui sont susceptibles de représenter une menace. Et puis, deuxièmement, la création d'un nouveau délit, la dissimulation volontaire totale. Totale ou partielle du visage.
Tout de suite,
est-ce que vous
ne
partagez
la pas. D'abord, tout existe dans le droit. Oui. Aujourd'hui, pour punir ceux qui commettent des violences. C'est une loi de circonstance, d'ailleurs caractérisée comme telle par Maître Henri Leclerc, un des plus grands pénalistes français. Mais qui se préoccupe encore, dans ce gouvernement, de l'avis d'un homme qui a et reste un des plus grands défenseurs des droits de l'homme ? C'est une loi de circonstance, c'est une loi de faible. C'est une loi de faible. Aujourd'hui, ce gouvernement agit comme un pouvoir politique faible pour essayer, sur le dos un petit peu des libertés publiques et des droits fondamentaux, d'essayer de se reconstruire une forme de force, de légitimité sur le registre de l'autorité
oui.
Voire de l'autoritarisme.
Visiblement, ça marche, puisque Emmanuel Macron remonte dans les sondages.
Très bien qu'Emmanuel Macron remonte dans les sondages au prix du sacrifice de nos libertés à tous. Moi, je n'ai montrer aucune indulgence à l'égard de la violence. Aucune.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu
mais
faire
face à ça ? Tout existe dans le droit.
Tout est possible pour les punir. Il s'agit de traiter le problème
non,
en amont.
Attendez, les lois anti-casseurs, on en a eu dans les années 70. Elles ont empêché les manifestations ? Non. Un mouvement social s'éteint quand il n'a plus de, quelque sorte, de
dans
carburant.
Dans les stades de foot, ça a donné des résultats,
mais,
par exemple.
Objectivement, c'est au prix de remise en cause, de principe du droit, donc de liberté fondamentale, qui me semble-t-il, sont essentiels. Donc moi, aujourd'hui, je me range du côté de ceux qui disent « ça ne servira à rien ». C'est une loi de circonstance, un aveu de faiblesse, et c'est la raison pour laquelle je m'y opposerai. Quand même, je rappelle que le gouvernement, au départ, était défavorable à cette proposition de loi qui vient de la frange la plus radicale de la droite française, des plus durs, et maintenant la reprend.
Ce sont les Républicains, hein, ce sont les sénateurs,
les Républicains. Oui, mais quand même, les Ciotti, c'est quand même pas des Larcher ou Bertrand, vous le reconnaîtrez.
Ça n'est pas
voilà.
Le Rassemblement National.
Non, mais vous faites la différence aujourd'hui dans ce que peut dire parfois M. Wauquiez sur l'immigration entre Marine Le Pen et Laurent Wauquiez? Vous arrivez à l'oreille
Je
à faire...
ne répondrai pas à cette
non,
question.
Non, bah, pourquoi Parce que vous, par pour une raison simple, c'est comme moi, c'est très difficile de faire la différence.
Est-ce que vous faites la différence, en revanche, entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen?
Mais évidemment, ça n'a rien à voir.
Est-ce que non, mais on dit souvent que
deux projets politiques qui sont quand même radicalement opposés.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas parfois qu'il y a des convergences de vues sur certains sujets?
Je vois bien le terrain sur lequel vous voulez m'emmener. Moi, j'ai dit la stratégie populiste de Jean-Luc Mélenchon.
Vous avez dit
quitter
les rives de la gauche.
Oui, parce qu'il le dit lui-même. C'est pas, ne fais que répéter ce qu'il dit. C'est pas parce qu'il a quitté les rives de la gauche qu'il a basculé à l'extrême droite. Pardon de le dire. Il y a quand même un peu de chemin. Ce que je dis juste, simplement, c'est que je pense que cette stratégie-là est une stratégie qui, d'une part, affaiblit la gauche, mais d'autre part, prend le risque de faire gonfler Marine Le Pen dans les urnes. C'est tout ce que j'ai dit. Mais après, si vous me demandez les points communs qui existent entre les citoyens, les militants, le programme, l'avenir en commun de la France insoumise et celui du Front National, les différenciers, fort heureusement. C'est d'ailleurs pour ça que moi je manifestais aux côtés des militants de la France insoumise contre les ordonnances travail. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des combats communs. Mais la stratégie, la direction de la France insoumise, qui consiste à dire gauche et droite... nous sommes ailleurs. Aujourd'hui, le principal clivage, il est entre ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut. Une
sur l'adoration vous en parliez il y a quelques instants, des régimes autoritaires. On le voit bien aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon au Venezuela, quand même, sur ce qu'il dit, que c'est pas un régime répressif, que Maduro doit rester, il doit tenir. On sait que Marine Le Pen a de l'admiration pour Vladimir Poutine, on le sait aussi de Jean-Luc Mélenchon. Donc,
on sait qu'Emmanuel Macron commerce sans problème avec le roi d'Arabie Saoudite. Vous dites qu'il a une tentation pour le régime autoritaire? On sait qu'Emmanuel Macron aujourd'hui intègre l'état d'urgence dans le droit commun. Vous dites qu'il est autoritaire? On sait qu'il fait une loi anti-casseur. Vous dites qu'il est autoritaire? Donc pardon, mais caractériser Jean-Luc Mélenchon, alors pour tout le temps, moi je lui fais pas de cadeau. Et j'ai un vrai désaccord avec lui sur plusieurs sujets, notamment sur la question européenne. Simplement, regardons les choses en face. En France, nous avons un régime qui a fermé les ports français à l'Aquarius. À côté, nous avons un pays avec des dirigeants de type autoritaire, l'Italie, qui ont fermé leurs ports à l'Aquarius. Quelle est la différence pour un migrant en danger de mort? Allez-vous me dire? Elle n'existe pas. Donc, ce que je veux simplement dire, je reviens à Jean-Luc Mélenchon et au Venezuela, puisque la question m'est posée, qu'est-ce que nous avons au Venezuela? Et quelle devrait être la solution? La solution, ça devrait être le retour aux urnes, avec des observateurs internationaux.
Il y a eu des élections il y a un an.
Oui, mais contestées, et indiscutablement, il y a un doute sur les conditions de la réélection de Nicolas Maduro. En même temps, quand un dirigeant de l'Assemblée nationale s'autoproclame président et qu'immédiatement les États-Unis disent « c'est le nouveau président du Venezuela », ça rappelle quand même un peu les années 60-70 dans ce registre-là. Donc moi, je considère aujourd'hui que la solution, ce devrait être le retour aux urnes dans des conditions qui garantissent l'impartialité et l'honnêteté.
Mais de qui vous sentez le plus solidaire aujourd'hui? Du peuple vénézuélien qui exprime sa souffrance et qui demande au fond d'en finir avec le président Maduro, ou du président Maduro qui lui invoque la légitimité de son élection?
Attention, Frédéric Rivière, parce que le peuple, on le convoque quand ça arrange tout le monde, il serait d'un côté et les méchants seraient de l'autre. Alors, l'occurrence, il y a aujourd'hui un grand mouvement qui aspire à davantage de démocratie au Venezuela. Moi, je le regarde et je pense que le Venezuela aura tout à gagner.
Qui aspire peut-être avant tout à l'économie,
et puis à la sécurité, à la justice, etc. D'autres aussi qui se méfient de ceux qui tiennent les rênes de l'opposition et qui sont des oligarques de tout poil. Rappelons-nous derrière le Venezuela ce qu'il y a, ou sous le sol du Venezuela ce qu'il y a. D'immenses richesses pétrolifères qui attisent bien des appétits, notamment d'un certain nombre de grandes puissances économiques. Donc, attention dans cette affaire, moi je l'ai dit, les principes c'est que les violences à l'égard des peuples, c'est insupportable, et je ne vais pas me mettre, moi, à relativiser ces violences parce qu'elles viendraient
à
du camp de la gauche.
À cause de nationalisation à outrance, vous le noterez, sur le pétrole et le reste.
Mais le Venezuela, c'est autre chose. Venezuela, quand vous ne pouvez plus avoir accès au marché...
Mais tout a été nationalisé, il n'y a plus rien.
Non, mais c'est pas la nationalisation, vous voulez voir des pays qui sont des pays où tout est privatisé et où tout va mal.
Non.
Je vous en donne autant. Donc non, mais c'est pour ça que c'est marrant comme argument. Vous prêtez aux nationalisations...
Non, mais vous parliez du pétrole qui était la richesse.
Oui, mais bon, vous pouvez avoir...
Sauf qu'elle a été asséchée, cette richesse.
À un moment, ça marchait très bien.
Ah bah oui, mais...
Au point que le Venezuela vendait du pétrole bon marché dans toute l'Amérique du Sud, et que ça permettait à des pays de s'en sortir mieux. Donc, s'il vous plaît, c'est pas une affaire de nationalisation. Donc, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, il faut avoir des principes. Et les principes, c'est la démocratie.
Ouais.
Le refus des violences contre les peuples. Et moi, je le redis, j'avais condamné les violences au Nicaragua, et pourtant Ortega venait aussi de la gauche. Je les condamne totalement au Venezuela. Et je dis, le retour aux urnes me semble être la solution la plus pacifique.
Ce que demande l'Union européenne et bien d'autres pays. Un mot, le débat, donc le grand débat, il a commencé avec Emmanuel Macron qui a visiblement mouillé sa chemise dès le début puisqu'il est resté parfois 6 heures à répondre au maire. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que c'est un bel exercice de com qui restera une belle image ou vous dites, dans le fond, c'est un exercice inédit et il y a une chance qu'il en sorte quelque chose?
Bon, c'est sûr que c'est un exercice de com. La question c'est, est-ce que ce sera plus qu'un exercice de com?
Ben, c'est ma question.
D'ailleurs, ça marche bien. Pardon de le dire.
Oui.
Mais 6 heures à faire un discours à la Castro, et on salue la performance physique du président de la République qui a repris le dessus sur le mouvement social. Quand même, pardon, mais si chaque fois qu'on fait 6 heures de discours, on trouve ça formidable parce qu'on se met en bras de chemise, bon, je pense que ce qui s'est passé depuis 2 mois vaut mieux que le fait qu'on s'extasie devant le passage du président de la République.
Le propos est un peu caricatural parce que vous savez bien qu'il ne s'est pas exprimé ni dans un cas ni dans l'autre 6 heures. Il a écouté pendant au moins 2 heures et demie, et effectivement, après, il y a eu
de
réponses.
Encore plus formidable que ce que...
Pas ce que je dis, j'essaie juste de ramener les choses à leur juste proportion.
C'est que le sujet, c'est quoi? Le grand débat national, évidemment que tout le monde a envie de s'y engager. Et que, d'ailleurs, il existe, et il existait même, le grand débat national, avant qu'Emmanuel Macron le lance. Il y a finalement, et moi ce qui m'intéresse, et j'aimerais qu'Emmanuel Macron soit prêt à ce débat-là, il y avait deux formes de catégories de Français invisibles avant ce grand mouvement social des Gilets jaunes. D'abord, ces citoyens qui ont été obligés de se mettre un gilet jaune fluorescent pour qu'on les voit et qu'on les entende, qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les écrans, qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, et qui ont permis que fasse irruption la question de la démocratie. Est-ce que mon bulletin de vote me donne du pouvoir, ou est-ce que c'est l'argent et les diplômes des grandes écoles qui donnent du pouvoir? La question de la justice sociale, la question de l'égalité des services publics, tout ça est arrivé grâce à ces invisibles d'hier qui sont devenus visibles. Mais il y a une autre catégorie d'invisibles, qui eux, restent dans la pénombre et n'ont pas tellement l'intention d'en sortir. Et finalement, dont on a l'impression qu'Emmanuel Macron ne veut pas qu'il reste dans la qu'il sorte de la pénombre. Ce sont ces grands dirigeants d'entreprises du CAC 40, ces grandes fortunes françaises, qui sont parmi les premiers responsables aujourd'hui de lois fiscales qui les avantagent, d'inégalités et d'écarts salariaux qui ne cessent de grandir, d'une rémunération des dividendes qui se fait au détriment de l'emploi. Rendez-vous compte que le CAC 40 a augmenté de 44% ses distributions de dividendes avec 20% de salariés en moins. Bon, ben moi je souhaite qu'on leur pose la question à eux sur leur responsabilité comme dirigeants de grandes entreprises comme Vinci, Total, BNP Paribas, sur l'impact.
Et ça améliorera la vie des gilets jaunes, comme disait Emmanuel Macron.
Si on redistribue la richesse, oui, ça va améliorer considérablement la vie de beaucoup. Or, c'est le sujet qu'a écarté le président de la République au début de sa lettre. On ne parlera pas de nouvelle répartition des richesses. Je pense que la principale lacune de sa démarche, elle tient à cela. S'il n'y a pas d'argent frais, honnêtement, on peut être très créatif, très innovant. Ce sera très compliqué de changer les règles du jeu en France.
Mais est-ce que ça donne un cadre à la colère, comme l'a dit Emmanuel Macron, ce débat national? C'est ce qu'il a dit avant-hier, là, en Égypte. C'est une façon de donner un cadre à la colère.
Ah, je connais bien cette manière de parler. Pour rien vous cacher, je vois bien où on dit des choses pareilles dans les cabinets ministériels. Il faut donner un cadre à la colère.
Bon. Dans les cabinets médicaux, parfois aussi.
si vous voulez.
De psychiatre.
Non, c'est pas moi qui aurais dit ça.
Non, c'est pas moi.
La réalité, c'est que la colère, elle est toujours là. Et qu'elle ne trouvera pas son débouché positif si à un moment le gouvernement ne s'attaque pas à deux questions. Un, la question de la répartition des richesses. Et deux, celle du pouvoir réel que donne le fait d'être citoyen français. Aujourd'hui, indiscutablement, un diplôme à l'ENA, à Polytechnique ou à HEC et une belle fortune vous donne tous les pouvoirs sans rien faire, y compris celui de vivre tranquillement quand les autres travaillent, tandis que le bulletin de vote ne change pas grand-chose à l'avenir. C'est vraiment, me semble-t-il, les questions sur lesquelles le président de la République doit s'engager. C'est la raison pour laquelle moi je lui ai préconisé d'engager une constituante, de basculer vers la 6e République et de pas se contenter de mesures qui seraient cosmétiques et qui garderaient évidemment au président de la République la forme d'impunité qui est la sienne depuis 1950.
Benoît, on aura peu de temps pour parler de la gauche, mais on a entendu Olivier Faure récemment critiquer vertement le quinquennat de François Hollande. On sait que vous avez été ministre, vous en êtes parti de ce gouvernement Hollande. Donc il dit il n'a pas de vision, il est incapable d'offrir une alternative à la mondialisation libérale. Alors si le Parti Socialiste n'est plus social-libéral, vous pouvez vous embrasser. C'est sur la bouche, non?
Bon, moi, je pense que ce discours, c'est pas un discours anodin.
Ah oui.
Je pense qu'il peut être utile pour l'avenir. Pourquoi je dis cela? D'abord parce que Olivier Faure dit les frondeurs avaient raison. Ils étaient contre le CICE, ils étaient contre la loi travail, ils étaient contre la déchéance de nationalité. Finalement, ils étaient sans doute les premiers, les pionniers, à dire cette orientation nous mènera dans le mur, il ne faut pas la prendre. Hélas, une fois le mur pris, et je sais de quoi
ça change quoi qu'on reconnaisse. Ça veut dire qu'on pourrait
reconnaître qu'il y avait deux lignes. Il y avait le déni qui consistait à dire François Hollande a été empêché par les frondeurs de se représenter. Ce que le premier secrétaire actuel du PS dit, c'est les frondeurs avaient raison. Donc, dont acte, c'est une première marche qui est utile. Maintenant, il faut en tirer les conséquences ou les conclusions stratégiques.
Alors, il nous reste une minute, Benoît Hamon. On va rester dans le même ordre d'idée, mais une minute, j'aimerais que vous nous disiez où on est et est-ce que l'initiative de Raphaël Glucksmann, qui veut unir la gauche pour les européennes, donc vous réunir, vous, les Verts, le Parti communiste, il est convaincu qu'il peut y arriver. Est-ce que c'est encore possible?
Mais Raphaël,
30 secondes, oui.
Raphaël, il voudrait unir un peu tout le monde, sans qu'on soit d'accord sur l'endroit où on siège, les candidats qu'on soutient et les lignes politiques qu'on défend. Même s'il y a un début de texte qui est écrit, mais qui on va dire, est pas très engagé.
Ça n'est pas encore assez abouti, pour résumer.
Je pense que la gauche, sans clarté sur le projet politique, si elle est confuse, et sans clarté stratégique où elle veut aller, si elle ne pose pas ces deux actes-là, c'est très compliqué qu'elle...